VOA Afrique, le monde aujourd'hui. À Washington.
Bonsoir Nathalie Barge, pour vous présenter cette édition du 31 juillet 2018. Présidentielle au Zimbabwe, le gouvernement menace de poursuite l'opposition qui revendique la victoire. Au Mali, les observateurs européens réitèrent leur demande de liste des bureaux privés de vote à la présidentielle. La justice de Brazzaville a levé le mandat d'arrêt contre le pasteur Ntumbi à la tête de la rébellion du Poule. 80 chiites nigérians acquittés après 2 ans de détention et ouverture aux États-Unis du procès de l'ancien directeur de campagne de Donald Trump. La Minute Écho et les sports, ce sera juste après le journal. Au Zimbabwe, aucune annonce officielle, mais le mouvement pour le changement démocratique revendique la victoire de Nelson Chamisa au premier tour de la présidentielle face au président sortant Emmerson Mnangagwa. Le gouvernement zimbabwéen a menacé de poursuite l'opposition qui revendique la victoire. Le point avec Yakuba Ouedraogo.
Nous avons reçu les résultats de nos agents. Les résultats montrent, au-delà de tout doute raisonnable, que nous avons gagné les élections et que le prochain président du Zimbabwe est Nelson Chamisa, a déclaré un haut responsable du parti, Tendai Biti. Lors d'une conférence de presse au siège du parti, il a ajouté que le MDC a réalisé l'impossible devant quelques partisans euphoriques. Le MDC dit cependant être inquiet, lui qui n'a cessé de dénoncer, avant le scrutin, le manque de transparence et la partialité de la commission électorale. Il y a un retard délibéré dans l'annonce des résultats. Ce retard est totalement inacceptable, a estimé Tendai Biti, mettant au défi la commission électorale d'annoncer les résultats. De son côté, le président Mnangagwa, qui préside le Zimbabwe depuis novembre dernier, s'est dit confiant de remporter les premières élections depuis la chute de Robert Mugabe, qui gouvernait le pays d'une main de fer depuis 1980. Les premiers résultats sont attendus ce mardi et les résultats complets d'ici samedi. Si aucun candidat n'obtient la majorité absolue des suffrages pour la présidentielle, un second tour sera organisé le 8 septembre.
Lors d'une conférence de presse à Bamako, la chef de la mission des observateurs de l'Union européenne au Mali, Cécile Kyenge, a insisté pour que les autorités publient une liste complète et détaillée des bureaux où le scrutin présidentiel n'a pas pu se tenir en raison des violences. Par ailleurs, au moins 3 des 24 candidats affirment être assurés d'une place au second tour s'il a lieu. Le point avec notre envoyé spécial à Bamako, Jacques Aristide.
Les Maliens sont toujours dans l'attente ce mardi, car les résultats officiels du scrutin ne sont pas encore connus. Mais les équipes de campagne de certains candidats n'hésitent pas à s'avancer. La dernière concerne l'Alliance démocratique pour la paix, l'ADP, qui affirme que son candidat, le riche homme d'affaires Aliou Boubacar Diallo, est arrivé en deuxième position et devrait ainsi décrocher sa place au second tour. Un second tour qui devra se tenir le 12 août prochain s'il est confirmé. Avant l'ADP, le camp du président sortant a déclaré qu'Ibrahim Boubacar Keïta était arrivé largement en tête. Son porte-parole, Mahamadou Camara, dit se baser sur les premiers résultats compilés par ses représentants. Quant au parti du chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, il a également annoncé que celui-ci était en tête, mais qu'un second tour allait probablement avoir lieu pour départager les deux premiers candidats. Aucun de ces partis n'a avancé de chiffres toutefois, car la loi électorale malienne leur interdit de les communiquer avant qu'ils ne soient rendus officiels. Les premiers résultats sont attendus d'ici à vendredi. De Bamako au Mali, Jacques Aristide pour VOA Afrique.
Un groupe armé coopérant avec les troupes françaises et maliennes contre les djihadistes dans la région de Ménaka a annoncé la mort d'un de ses responsables militaires. Lundi, des individus armés ont assassiné Ahmad Ahmedag Falnat en plein centre-ville de Ménaka, selon un communiqué du MSA. Des djihadistes qui se réclament du groupe État islamique ont revendiqué l'assassinat. En République du Congo, la justice a levé le mandat d'arrêt contre Frédéric Binsamou, alias Pasteur Ntumbi, à la tête de la rébellion dans la région du Poule, dans le cadre de l'accord de paix du 23 décembre. Plus de précisions avec Arsène Séverin à Brazzaville.
Le pasteur Ntumi, poursuivi depuis 2016 pour acte de terrorisme, est désormais libre de ses mouvements. Le procureur de la République, dans un arrêt rendu le 27 juillet dernier, a mis fin à toutes les poursuites. Le porte-parole du pasteur Ntumi, Philippe Alebibi, qui a assisté à la cérémonie annonçant cette mesure par le ministère de l'Intérieur, a indiqué que désormais, c'était l'heure de la paix, appelant les ex-ninjas à se rendre dans les centres de désarmement dans le pool pour déposer leurs armes. Le directeur de cabinet du ministre de l'Intérieur, Séraphin Ondélé, a annoncé en même temps un calendrier du désarmement des ex-combattants, assurant que le gouvernement dispose de tous les moyens nécessaires pour mener à bien cette opération. Le pasteur Ntumi s'était retiré dans les forêts du Poule depuis l'attaque armée en avril 2016 dans les quartiers sud de Brazzaville. La police avait alors utilisé des gros moyens dans les hélicoptères de guerre pour les traquer dans le Poule. Arsène Séverin, Brazzaville, VOA Afrique.
Plus de 80 chiites membres du mouvement islamique du Nigeria ont été acquittés après 2 ans de détention. Le tribunal de Kaduna a statué que l'État n'avait pas suffisamment de preuves, malgré des accusations de conspiration. Les membres de l'Yémen, qui défilaient en décembre 2015 pour protester violemment contre le gouvernement fédéral et demander un État chiite indépendant, étaient accusés d'avoir attaqué le convoi du chef de l'armée Tukur Buratai. Ces manifestations sanglantes ont conduit au massacre de 300 chiites par l'armée et à des centaines d'arrestations, dont celle de leur leader Ibrahim Zakzaki. En Centrafrique, 3 Russes qui portaient des cartes de presse ont été assassinés la nuit dernière près de Sibout. Leur chauffeur est porté disparu. Ils ont été tués par des hommes armés non identifiés, un barrage dressé sur une route selon une source judiciaire. Ils rentraient de Kagabandoro selon un religieux de la ville. Les corps ont été déposés ce matin à la base de la MINUSCA de Sibout. En République démocratique du Congo, un point de presse de la Lucha a été interdit par la police à Goma, dans le Nord Kivu. Selon le maire Timothée Mouissa Kiesse, ils doivent avoir l'autorisation de la mairie pour tenir une conférence de presse. Un militant a lu dans la rue un communiqué sur les conclusions d'une enquête judiciaire concernant la mort en juin d'un membre du mouvement, Luc Nkulula, dans l'incendie de sa maison à Goma. C'est tout simplement un incident malheureux, a déclaré vendredi le procureur. Nous sommes plus que jamais convaincus que notre camarade a été assassiné, dit le communiqué de la Lucha. Hier, 40 militants avaient été arrêtés lors d'une marche silencieuse à Kinshasa. Ils ont été libérés ce mardi.
VOA Afrique à Washington, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Ouverture aux États-Unis du procès de l'ex-chef de campagne de Donald Trump, Paul Manafort, accusé de fraude fiscale et blanchiment dans le cadre de l'enquête russe. Un résumé de cette première journée d'audience avec Nicolas Pineau.
Paul Manafort, ancien directeur de campagne de Donald Trump entre mai et août 2016, comparaît devant un tribunal à Alexandria dans l'État de la Virginie pour son premier procès qui devrait durer 3 semaines. Cette première journée est consacrée à la sélection des 12 jurés. Manafort est accusé de blanchiment ainsi que de fraude fiscale et bancaire liée à ses activités de lobbyiste pour l'ex-président ukrainien Viktor Yanukovych, des faits mis à jour par Robert Mueller à la faveur de son enquête russe. Le procureur spécial cherche toujours à déterminer s'il y a eu ingérence russe dans la présidentielle de 2016 et si oui, qui était au courant. Parmi la trentaine d'individus déjà visés par le procureur spécial, dont une majorité de Russes, Paul Manafort est le seul Américain à avoir refusé de passer un accord avec la justice pour éviter un procès. Et un tel accord n'aura pas lieu, a réaffirmé ce mardi son avocat à la chaîne CBS. Tôt ce matin, Donald Trump a une nouvelle fois affirmé sur Twitter qu'il n'y avait pas eu de collusion avec la Russie et que de toute façon ce n'était pas un crime, une ligne de défense déjà utilisée par son avocat Rudy Giuliani.
Le président américain Donald Trump a fait part de son scepticisme sur la libéralisation de la vente de plans numériques permettant de fabriquer des armes à feu avec une imprimante 3D. Je me penche sur cette affaire d'armes en plastique en 3D vendues au grand public, a indiqué M. Trump sur Twitter, précisant avoir consulté la National Rifle Association. Le gouvernement fédéral a autorisé en juin le groupe Defense Distributed à diffuser ses plans numériques à partir du 1er août. Hier, les procureurs de 8 États ont annoncé qu'ils allaient demander le blocage de la mise en ligne de ce programme. Un tribunal d'Izmir en Turquie a refusé de lever l'assignation à résidence d'un pasteur américain accusé d'activités terroristes, rapporte l'agence de presse Anadolu. L'avocat du pasteur Andrew Brunson avait demandé lundi sa libération et la levée de son interdiction de quitter le territoire. Et le groupe État islamique qui a revendiqué l'assassinat de 4 touristes au Tadjikistan a diffusé une vidéo des exécutants présumés lui prêtant allégeance en dépit des dénégations des autorités qui accusent l'opposition islamiste. 7 cyclotouristes étrangers ont été fauchés dimanche par une voiture et attaqués par des hommes armés dans la région de Dangara. 2 Américains, 1 Suisse et 1 Néerlandais sont morts. 2 autres cyclistes ont été blessés. Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique et voaafrique.com. L'actualité économique en Afrique, on en parle dans la Minute Éco qui vous est présentée ce soir par Eric Manirakiza.
Les États-Unis ont suspendu les avantages commerciaux jusque-là appliqués aux vêtements importés du Rwanda. Washington répond au droit de douane que Kigali a imposé sur les importations de vêtements d'occasion qui viennent principalement des États-Unis. Le Rwanda veut renforcer son industrie textile et estime que le marché colossal des vêtements d'occasion en Afrique de l'Est constitue une entrave au développement des industries textiles locales. D'après USAID, la région importe 1/8 des vêtements déjà utilisés dans le monde. Mise en place en Côte d'Ivoire d'un collectif d'exportateurs nationaux de cacao. Le collectif vise à réduire les coûts d'exploitation et être plus compétitif que les multinationales du secteur. Il comprend 12 exportateurs sur les 21 que compte le pays. D'ici la fin de la campagne en septembre, il compte exporter 350 000 tonnes de cacao. Pendant la saison 2016-2017, la filière cacao a perdu au moins 185 milliards de francs CFA pour mauvaise gestion. Abidjan avait enregistré une mévente de plus de 200 000 tonnes de cacao sur une production totale annuelle de 2 millions de tonnes. La cité portuaire de Massawa en Érythrée espère retrouver son activité économique d'antan. Le port a été le lieu d'une bataille décisive de la guerre d'indépendance. Pour les Érythréens, la paix retrouvée avec l'Éthiopie insufflera un nouveau dynamisme à l'économie de leur nation. Asmara exporte ses minéraux et importe ses biens de consommation via le port de Massawa.
À présent, les sports avec Yacouba Ouédraogo. Bonsoir Yacouba.
Bonsoir Nathalie, bonsoir à tous.
La Coupe nationale du Cameroun commence demain.
Oui, la compétition débute par les 32e de finale. Vainqueur du championnat qui a pris fin dimanche dernier, le Coton Sport de Garoua fera face à Sagay FC de Lagdo. Fovu de Baham donne rendez-vous à Ofta de Kribi. Cadan Sport de Yaoundé joue contre Volcan FC de Fumbo. À suivre aussi la rencontre Panthère Sportive de Ndé, Victoria United de Limbé.
En Europe, la Ligue 1 a un nouveau slogan.
La Ligue des Talents, c'est le nouveau slogan annoncé par la Ligue de football professionnelle. Elle dit vouloir faire écho à l'excellence française en matière de football et accroître sa notoriété à l'international faute sa présidente Nathalie Boye de la Tour. Après avoir vu ses droits télé sur la période 2020-2024 dépasser le cap du milliard d'euros en mai et l'équipe de France remporter la Coupe du Monde avec une majorité de joueurs formés dans son championnat, la Ligue 1 espère attraper son retard de développement par rapport à ses principaux concurrents européens. Le championnat reprend le 10 août prochain.
Tennis, retour réussi pour Andy Murray.
L'ancien numéro 1 mondial a remporté son premier match sur surface dure depuis près de 17 mois en battant l'Américain Mackenzie McDonald au premier tour du tournoi de tennis de Washington. Le Britannique, blessé à la hanche depuis juillet 2017 et opéré en janvier dernier, a eu besoin de 2h37 minutes et de 7 balles de match pour prendre le dessus sur l'Américain en 3-7, 3-6, 6-4 et 7-5.
NBA basketball, LeBron James dit vouloir ramener les Lakers au sommet.
Aider l'équipe à retrouver des niveaux qu'elle n'a pas atteint depuis un moment, c'est un challenge qui me plaît, a déclaré l'ancien ailier de Cleveland, 7e meilleur marqueur de l'histoire de la NBA. Les Lakers, 2e franchise la plus titrée avec 16 sacres juste derrière les Boston Celtics, 17, connaissent leur pire période de résultats depuis 5 ans. Ils n'ont pas réussi à atteindre les playoffs depuis 2013 et leurs 2 derniers titres datent de 2009 et 2010 avec Kobe Bryant. James a signé un contrat de 150 millions de dollars pour 4 saisons avec les Lakers après 4 saisons passées à Cleveland.
Merci beaucoup Yacouba pour cette page sportive.
le monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Nathalie Barge pour vous présenter les dossiers du jour. Les Maliens sont toujours dans l'attente des résultats du premier tour du scrutin présidentiel de dimanche, alors que le dépouillement se poursuit. Mais des équipes de campagne n'hésitent pas d'affirmer que leurs candidats respectifs sont assurés d'avoir une place dans un éventuel second tour. Le parti du leader de l'opposition, Soumaïla Cissé, a par ailleurs fait des allégations de bourrage d'urnes dans des localités du Nord. Pour une réaction, notre envoyé spécial à Bamako, Jacques Aristide, s'est entretenu avec Boubacar Terra, coordinateur national du groupe d'observateurs WANEP, le réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix.
Selon les informations que nous disposons, le document est en cours. Ce que nous saluons déjà, c'est que parmi les observateurs nationaux qui ont été habilités par l'État, WANEP fait partie des observateurs nationaux qui sont habilités à participer au processus de dépouillement.
Des irrégularités ont-elles été notées?
Pour le moment, nous nous abstenons donc, de tout commentaire puisque nous ne voudrons pas anticiper. Donc nous nous en tenons déjà à la proclamation qui sera faite donc, par les plus hautes autorités.
L'équipe de campagne du candidat Soumaïla Cissé a dénoncé ce qu'elle appelle des bourrages d'urnes dans plusieurs localités du Nord. Qu'en savez-vous?
Nous avons déployé environ 300 observateurs sur toute l'étendue du territoire, dans les cercles et dans les capitales régionales. Alors, des cas de bourrage d'urnes ne nous ont pas été rapportés. Mais nous pouvons quand même estimer qu'à ce niveau-là, nous ne pouvons pas nous prononcer. Mais le candidat qui le dit, peut-être il a des preuves, mais nous, en tout cas, nous n'avons pas reçu d'informations donc, de tels bourrages.
Après les équipes du président sortant, Ibrahim Boubacar Keïta, et du chef de l'opposition, Soumaïla Cissé, le camp d'un autre candidat, Aliou Diallo, affirme ce mardi que celui-ci sera au second tour et qui devra départager évidemment les deux candidats arrivés en tête. Est-ce à craindre que certains candidats n'accepteront pas les résultats de ce scrutin et un tel scénario risque-t-il de déclencher une crise post-électorale?
Oui, nous pouvons toujours garder la vigilance, être vigilants, faire en sorte que toutes les conditions soient réunies pour qu'il y ait un consensus. Mais pour le moment, nous ne pouvons pas anticiper les choses. Nous attendons la proclamation officielle des résultats provisoires. Et suite à cela, s'il y a des mesures à prendre, des actions de suivi, des actions de plaidoyer à adopter auprès des autorités nationales, nous le faisons, puisque nous avons un rôle contributif. Nous allons appeler donc à la paix, au dialogue, pour qu'il y ait un consensus.
Mais comme certains autres observateurs le disent, on se dirige vers un second tour, n'est-ce pas?
Bon, nous ne pouvons pas confirmer cela, parce que cela constituerait également une anticipation donc, du résultat qui n'est pas encore proclamé officiellement.
C'était Boubacar Terra du groupe d'observateurs du réseau ouest-africain pour la consolidation de la paix. Il était au micro de notre envoyé spécial au Mali, Jacques Aristide.
Restez avec nous à Bamako, au Mali, sur le 102 FM, CVO Afrique, 24h sur 24.
Les principaux groupes de médias au Nigeria dénoncent un projet de loi visant à réglementer la pratique du journalisme. L'Association des éditeurs de la presse écrite et l'Union nationale des journalistes rejettent ce texte qu'ils jugent draconien, primitif et inconstitutionnel. Le reportage de Gilbert Tamba, correspondant de VOA Afrique au Nigeria.
Le projet de loi, une fois adopté par le Parlement fédéral, risque de criminaliser la pratique journalistique au Nigeria, malgré le fait que les lois du pays disposaient déjà suffisamment de dispositions et de recours pour obtenir réparation. Le projet de loi est aussi considéré par les médias nigériens comme une tentative d'ingérence dans les activités des professionnels des médias du pays. Wahid Odishile est le président de l'Union des journalistes au Nigeria.
The bill, we consider it to be Ce projet de loi est contre la liberté d'expression dans le sens que c'est une tentative de criminaliser le journalisme et la libre expression. Il y a certaines provisions dans ce projet de loi graves qui nous donnent le sentiment que si nous acceptons son adoption par le Parlement, ça sera un désastre pour les médias au Nigeria.
Une autre provision du projet de loi crée un conseil d'administration composé des représentants du gouvernement, des organes de médias et des parlementaires qui sera chargé des questions des médias et dont son président sera nommé par le ministre de l'Information. Mais pour le rédacteur en chef du journal Daily Trust, cela est tout simplement inacceptable. Manir Dan Ali.
Just imagine the idea of
imaginez l'idée de créer un conseil d'administration au sein duquel plusieurs personnalités nommées par le gouvernement vont s'asseoir pour juger ce que font les médias. Imaginez que le ministre de l'Information s'octroie de pouvoir pour sanctionner les institutions de médias au Nigeria. Vous pouvez imaginer ce qui va arriver.
Même les maisons des médias comme radio ou télévision pourraient désormais faire l'objet de fermeture par ces conseils en cas d'offense. Maître Sanusi Moussa est avocat au barreau nigérian. Il se dit inquiet et estime que ce n'est pas le rôle d'un conseil d'administration des médias.
Après avoir parcouru ce projet de loi en tant qu'avocat, il y a une implication légale. Je suis inquiet du fait qu'on essaie de conférer à ce conseil le rôle d'une cour de justice. Je pense que dans son article 16, quand vous regardez, le projet de loi donne mandat au conseil pour enquêter les disputes et arriver à une décision. Cela, pour moi, ne doit pas être comme ça.
En tout cas, le bras de fer est engagé entre les médias et le gouvernement qui soutient l'adoption du projet par le Parlement d'une part et entre les dirigeants des organes de défense des intérêts des médias et le Sénat de l'autre qui poussent pour le rejet de ce projet de loi. Gilbert Tamba Abuja, VOA Afrique.
En plus de nos programmes sur FM et ondes courtes, VOA Afrique est en votre compagnie 24 heures sur 24 sur Internet. VOAAfrique.com, tous les derniers développements sur l'actualité africaine et mondiale, reportages photos et vidéos, et vos commentaires sur VOAAfrique.com, à tout de suite.
Un vaste programme de reboisement a été lancé par 27 pays il y a 10 ans afin de créer ce que l'on appelle la Grande Muraille Verte de l'Afrique, visant à ralentir et inverser les effets de la déforestation dans la région sahélienne. À ce jour, le Sénégal a planté plus de 11 millions d'arbres et la localité de Mbar Toubab est un des centres névralgiques de la lutte contre l'avancée du désert. Plus de précisions avec Arzouma Compaoré.
Le Sahel, ceinture semi-aride située sous le Sahara, s'étend du Sénégal à l'ouest à l'Érythrée à l'est et abrite plus de 100 millions de personnes. Les experts disent que les dommages sur l'environnement peuvent être inversés avec des pratiques simples pour retenir l'humidité du sol. Eladji Goudjabi, responsable technique des eaux et forêts de Mbar Toubab, inspecte les arbres plantés dans cette région du Sénégal dans le cadre des efforts de réhabilitation du Sahel.
Vous voyez cette différence. Depuis 2010, les plants ont été plantés et aujourd'hui, on a vraiment une satisfaction. Raison pour laquelle, quand vous venez ici, vous pouvez voir une nette différence entre ce qui a été planté à l'intérieur et à l'extérieur. Et donc, vous, si vous êtes là, vous ne pouvez pas, même pas voir à 200 mètres à l'intérieur, et alors qu'à l'extérieur, vous pouvez voir jusqu'à 500, 400 mètres, même jusqu'à 1 km. Donc cela veut dire que, vraiment, la Grande Muraille est en train de faire ses efforts.
En plus de ralentir et d'inverser les effets de la désertification, le projet de plantation de murs d'arbres au Sahel vise également à créer des emplois et à améliorer la sécurité alimentaire. La communauté de Mbar Toubab gère une pépinière qui fournit des plantes pour le projet. Les résidents prennent soin des semis et plantent les arbres à un prix modique. Ici, les élèves se joignent à la tâche et partagent même avec leurs parents ce qu'ils ont appris sur la plantation d'arbres. Kumba est une élève de 12 ans à l'école Mbar Toubab.
On a semé des maïs, des tomates, des piments, aubergines. On a récolté ça, on a vendu une partie.
Ibrahima Diawara, directeur de l'école élémentaire de Mbar Toubab.
De 1999 à 2014, l'école a été fermée et réouverte plusieurs fois.
Et même, il y avait, l'école était fermée de 2006 jusqu'à 2014. Il n'y avait plus de cours parce qu'il n'y avait plus d'élèves. Il y avait la transhumance. Les gens transhumés, ils allaient très loin pour chercher du pâturage. Il y avait aussi les mariages précoces et autres. Donc maintenant, avec la Grande Muraille Verte, on mène des activités de sensibilisation. Et il y a aussi d'autres activités qui permettent d'inciter les gens à maintenir leurs enfants à l'école.
Selon les Nations Unies, quelques 60 millions d'Africains pourraient être forcés de quitter leur foyer en moins de 5 ans à cause de la désertification. Cependant, grâce à la Grande Muraille Verte, 50 millions d'hectares de terre pourraient être restaurés dans la région d'ici 2030.
FM 102, c'est VOA Afrique à Dakar au Sénégal, 24 heures sur 24.
C'est la fin de cette édition. À la mise en onde, cet échec Thierrot. À la présentation, Nathalie Barge. Restons en contact sur Facebook et rendez-vous également sur notre site internet voaafrique.com pour l'actualité. On continue. Très bonne soirée à tous.
Washington, la voix de l'Amérique. Voici un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis.
Le 9 juillet, le président érythréen Isaias Afwerki et le premier ministre éthiopien Abiy Ahmed ont décidé de résoudre les différends entre leurs deux pays en signant un accord de paix qui mettra fin à deux décennies d'hostilité. Pendant 5 ans après que l'Érythrée a obtenu par référendum son indépendance de l'Éthiopie, les deux pays ont eu des relations cordiales. Mais, en 1998, une dispute frontalière s'est muée en une vicieuse guerre qui a fait plus de 80 000 morts. Les hostilités ont cessé en l'an 2000, mais les deux pays ont maintenu un face-à-face militaire dans le territoire litigieux. En plus de mettre un terme aux hostilités de longue date, un accord de paix aurait d'importants bénéfices pour les deux nations. Un pays enclavé, l'Éthiopie pourrait accéder aux ports érythréens d'Assab et de Massawa sur la mer Rouge, sur l'une des voies maritimes les plus fréquentées de l'Asie à l'Europe en passant par le canal de Suez. Pour sa part, l'Érythrée aurait la possibilité d'améliorer son économie sévèrement mise à mal par la guerre avec l'Éthiopie et bloquée par l'impasse subséquente. C'est un pays isolé dont nombre des ressortissants ont émigré. Les États-Unis se félicitent de l'engagement du 9 juillet pour la paix et la sécurité entre l'État de l'Érythrée et la République fédérale démocratique d'Éthiopie, qui met fin à 20 ans de conflit, a dit le secrétaire d'État Mike Pompeo dans une déclaration écrite. Nous félicitons le Premier ministre Abiy d'Éthiopie et le président Isaias Afwerki d'Érythrée pour avoir courageusement mené leur peuple vers la paix, la prospérité et les réformes politiques. La normalisation des relations et l'adoption d'une déclaration conjointe de paix et d'amitié entre l'Érythrée et l'Éthiopie permettront à leur peuple de se concentrer sur leur aspiration à des liens politiques, économiques et sociaux plus étroits, a souligné le secrétaire d'État Pompeo. Les États-Unis sont prêts à soutenir ce processus et encouragent toutes les parties à continuer de travailler dans la transparence et la confiance dans les jours à venir. La paix entre l'Éthiopie et l'Érythrée renforcera la stabilité, la sécurité et le développement dans la Corne de l'Afrique et de la mer Rouge.
C'était un éditorial reflétant le point de vue du gouvernement des États-Unis. Washington, la voix de l'Amérique.